Comment imaginez-vous le futur de l'énergie? Peut-être que vous vous êtes déjà dit, ce serait bien si on fermait toutes ces centrales à charbon, si on fermait toutes les centrales nucléaires même, et qu'on remplaçait tout ça par du renouvelable. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes peut-être dit, c'est juste un rêve, ça n'arrivera jamais. C'est une belle idée, peut-être, mais c'est tout. Et si ça n'était pas qu'un rêve? S'il y avait un moyen d'en faire une réalité? Si je vous disais que c'était possible, comment réagiriez-vous? Mon nom est André Klouchko et aujourd'hui, je vais vous faire une petite histoire de l'énergie. D'après vous, d'où vient l'énergie que nous consommons? D'où vient-elle vraiment? Pour le voir, nous devons remonter le temps. Nous devons rebrousser le temps pour voir d'où viennent vraiment les choses. Commençons par les voitures. Les voitures que nous conduisons tous. Les voitures, c'est du carburant, de l'essence. L'essence, c'est du pétrole. Le pétrole vient de sous la terre. Ça, jusque-là, c'est assez facile. Mais le pétrole lui-même, il y a des millions d'années, c'était autre chose. C'était de la biomasse. De la biomasse, des cadavres d'animaux et de plantes qui ont atterri au fond des océans et des tourbières. Et ces animaux ont tiré leur énergie des plantes, et les plantes, du coup, tiraient leur énergie, in fine, du soleil. Le pétrole, c'est de l'énergie solaire stockée sur des millions d'années. On s'en rend peut-être pas compte, en fait, la plupart du temps. C'est pour ça que j'avais besoin de cette image. Prenons une autre énergie, par exemple le vent. Il y a une zone chaude, une zone froide. Une zone à plus haute pression que l'autre. Mais ces zones sont chauffées, elles aussi, par le soleil. Finalement, l'énergie éolienne, c'est aussi de l'énergie solaire, avec un petit différé. Maintenant, prenons l'énergie houlomotrice, encore une forme d'énergie. Mais encore, ça vient du vent, et encore, ça vient du soleil. Finalement, c'est la même chose. On en revient toujours au même. Et maintenant, le nucléaire, vous me direz. Nucléaire, c'est plus compliqué, oui. Mais en fait, ça vient aussi des étoiles, démonstration. Le nucléaire, en fait, c'est de l'uranium. L'uranium, en fait, était dans la croûte terrestre depuis des millions d'années. Même des milliards d'années, en fait. Et il n'a pas bougé parce que c'est un élément chimique, vous ne pouvez pas le détruire. Pas comme ça. Il ne peut que se détruire tout seul en faisant une désintégration radioactive. Et en fait, il a été amené là par quoi? Par les météorites qui ont formé la Terre il y a des milliards d'années. C'est de là que ça vient. Et ces météorites elles-mêmes viennent des nuages interstellaires. Et dans les nuages interstellaires, il y a eu des événements cataclysmiques il y a des milliards d'années. Des supernovas. L'ultime feu d'une étoile sur le point de mourir. Elle convertit toute son énergie. Elle consomme 10 puissance 50 atomes en l'espace de quelques secondes et elle expulse sa matière jusqu'aux confins des systèmes solaires environnants. Des événements cataclysmiques qui ne sont produits pas souvent. Et ces explosions viennent des étoiles. Des étoiles comme le Soleil. L'uranium, c'est la mort d'une étoile stockée sur des milliards d'années. Pour recréer de l'uranium, il faut tuer d'autres étoiles. Maintenant, peut-être que vous avez une idée d'avec quoi on joue avec le nucléaire. Voilà. Donc, si on regarde jusqu'à maintenant, on a eu le solaire à débit direct, le solaire et l'éolien, on a le solaire stocké sur l'échelle d'une vie humaine, la biomasse, stocké sur des échelles géologiques, comme les hydrocarbures, et stocké sur une échelle encore plus longue, le nucléaire. Maintenant, il y a une autre forme d'énergie nucléaire. Il y a l'énergie de fusion nucléaire. Qu'est-ce que c'est la fusion nucléaire? C'est l'homme qui prend le soleil, le met sur Terre, le met dans une boîte et dit qu'il pense le contrôler. Ça peut marcher, ça peut vraiment marcher. En fait, soit on devient un dieu, soit on devient quelqu'un de très dangereux. Et entre les deux, ça va dépendre de ce qui va se passer. Et qu'est-ce que c'est la fusion nucléaire? Donc vous avez de l'hydrogène lourd, c'est ce qui va se passer dans le réacteur ITER à Cadarache. Donc du deutérium et du tritium qui fusionnent pour former un atome, un noyau d'hélium et un neutron. À cause de ce neutron, les parois du réacteur vont devenir radioactives. Du coup, ça produit des déchets radioactifs. Le tritium lui-même, l'hydrogène lourd à trois nucléons, est aussi radioactif. Finalement, ce n'est pas la solution ultime. Si on veut aller plus loin, il faut aller à 600 millions de degrés, non pas 100 millions. Il faut encore confiner le plasma 500 fois mieux qu'on sait le faire. Et là, on arrive à la fusion bore-hydrogène. Une fusion qui ne consomme pas d'éléments radioactifs et qui n'en produit pas non plus. Avec ça, on aura vraiment une énergie du futur. Nos plus grands magiciens et sorciers sont en train de mettre tout leur savoir pour essayer de nous donner cette technologie. Mais ça pourrait prendre très très longtemps, peut-être jamais. Alors en attendant, on fait quoi? Parce qu'en attendant, le pétrole, il continue de brûler. En 100 ans, tout au plus, on aura converti l'essentiel de nos réserves d'hydrocarbures en dioxyde de carbone. Finalement, en 200 ans, on aura dilapidé des ressources qui ont mis des millions d'années à se créer. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, imaginez un fils de famille riche qui dilapiderait l'argent de 3 générations en quelques heures. C'est à peu près ça. Alors comment est-ce qu'on peut arrêter de vivre à crédit? Un crédit qu'on ne peut pas rembourser. La seule solution serait du coup de prendre du solaire à débit direct, de ne plus prendre de crédit, de prendre du solaire photovoltaïque ou de prendre de l'éolien, qui est l'énergie solaire directe aussi. Mais seulement vous vous dites, je vois venir, des panneaux solaires c'est rien, un panneau solaire c'est tellement plus petit qu'une centrale nucléaire, ça ne sera jamais qu'une goutte d'eau. Finalement on pourrait très bien rester avec le nucléaire, c'est pas si grave, les voitures puent beaucoup moins aujourd'hui qu'elles ne puaient il y a 20 ans, etc. Donc finalement c'est pas la peine de changer, tout ira bien, tout finira par s'arranger. Si vous croyez ça, c'est que vous êtes resté dans un monde de rêve. Le monde a beaucoup changé ces dernières années, et il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vu venir. Voici le monde tel qu'il est aujourd'hui. 75 gigawatts d'éolien déployés aux États-Unis, 100 gigawatts de solaire qui vont se déployer en Inde d'ici 2022, 150 gigawatts d'éolien qui sont déjà déployés en Chine avec 43 gigawatts de solaire. À titre de comparaison, la puissance totale du monde, c'est 2 terawatts, donc 2000 gigawatts. Finalement, c'est pas tant que ça. Et aussi un dernier chiffre. Le solaire, l'énergie solaire qui vient sur Terre chaque seconde, c'est 65 pétawatts, 65 000 terawatts. Donc finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'avec 0,01% de la surface de la Terre, avec du photovoltaïque, 300 par 200 km dans le Sahara, vous alimentez le monde entier en électricité. Finalement, c'est pas grand-chose. Du coup, ça marche. Mais alors, comment on en est arrivé là? Le solaire était pourtant si petit. Seulement, vous avez négligé un paramètre, le paramètre économique. C'est pas grave si une centrale prend plus de place, du moment que la place est encore réaliste. L'important, c'est qu'elle coûte moins cher. Finalement, ce grand démon de l'économie qui nous a infligé la crise de 2008 pourrait très bien être celui qui nous sauve du pétrole. Parce qu'en 2025, une centrale solaire sera déjà moins chère qu'une centrale au charbon. Même la Chine va se mettre au solaire. Elle le fait déjà, d'ailleurs. Seulement, il y a un problème. L'énergie solaire telle qu'elle est soumise à une limite. Une limite qu'elle ne peut pas dépasser si on ne l'aide pas. En l'état, c'est 30% de notre énergie. 30% de l'énergie du monde seulement peut être fournie du solaire. Pourquoi? Allons voir. Pour ça, cette fois, nous devons aller dans le futur. Imaginons un monde 100% renouvelable. Les écolos ont gagné. Vous êtes chez vous, il fait beau, il fait chaud. Pas comme aujourd'hui. Le soleil se couche, l'air est immobile. La nuit tombe. Vous voulez allumer la lumière, mais ça ne marche pas, rien ne se passe. Pourquoi donc? Eh bien, vous l'avez probablement déjà deviné. Lorsque le soleil se couche et que le vent tombe, les sources d'énergie renouvelable ne produisent plus rien. Elles ne stockent rien. Elles doivent fournir tout ce qu'elles ont produit à l'instant où elles le produisent. Du coup, la lumière s'éteint chez vous. Et le problème, c'est que ce n'est pas seulement chez vous, c'est dans toute l'Europe. Toute l'Europe tombe dans la nuit en même temps, et toute l'Europe tombe dans des trous de vent de 30 jours, tous les ans, où elles produisent seulement 25% de la capacité de ces parcs éoliens. Du coup, il y a des moments où il n'y a pas d'énergie renouvelable produite. Alors que peut-on faire? Le problème, donc, est un problème non pas de production, mais de moment de production. Si seulement on pouvait faire briller le soleil la nuit. Mais peut-être qu'en fait, il suffit juste de fournir cette énergie la nuit. La solution était sous nos yeux, c'est le stockage d'énergie. Stocker l'énergie solaire la journée pour la restituer la nuit. Stocker l'énergie éolienne pour la restituer pendant les nuits sans vent. Grâce au stockage d'énergie, on peut passer de 30% à 100% d'énergie renouvelable. C'est ça le chaînon manquant. Mais alors stocker l'énergie, on sait déjà faire. EDF d'ailleurs a installé 6 gigawatts de barrages en double, un barrage en haut et un barrage en bas, qui se passe de l'eau, qui descend de l'eau quand on a besoin d'électricité, qui la remonte quand on a trop d'électricité. Ça marche très bien, ça marche depuis 50 ans. Le problème, c'est quand vous n'avez plus de rivière à exploiter, ou quand tout simplement vous vivez au milieu d'une plaine. Là, ça ne marche plus. Donc il faut autre chose. Alors, je vois venir, une énorme batterie au lithium, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, ça a deux problèmes, ça coûte cher, et aussi les matériaux. Les matériaux sont toxiques et inflammables. On peut faire mieux avec de l'air comprimé. L'air comprimé isotherme, c'est 25 ans de durée de vie, deux fois moins cher que le lithium, pas de matière toxique, 100% recyclable. Une solution pour l'avenir, parmi d'autres. On verra qui va gagner. Maintenant, grâce à une bonne techno de stockage, pour qu'on réalise, on brise la limite des 30%. On brise la limite de 30%, donc on peut monter à 100% d'énergie renouvelable dans le monde avant même de découvrir les réacteurs à fusion nucléaire. On pourra même ensuite générer des carburants à partir de cette énergie renouvelable. On pourra faire du méthane et de l'hydrogène de synthèse. Avec ça, on pourra alimenter des voitures comme aujourd'hui, sauf qu'on l'aura fait à partir de dioxyde de carbone qu'on aura capturé. Donc on sera enfin en une économie circulaire. Enfin, toute notre énergie primaire viendra du soleil, en débit direct, plus de dettes. On arrêtera de vivre avec des dettes qu'on ne peut rembourser. On rendra une terre à nos enfants, non pas ravagée, mais telle qu'on l'a trouvée. On pourra découvrir le voyage interstellaire et découvrir d'autres civilisations, non pas pour aller piller et prendre tout ce qu'il y a sur la planète, mais en venant en paix. Au final, l'humanité aura atteint l'âge de raison énergétique. Nous ne mourrons plus dans 100 ans, mais dans 1 million d'années. Si l'on prend la bonne voie aujourd'hui. Merci.